François Mathias est médiateur scientifique au sein du Musée des Arts et Métiers à Paris, 60 rue Réaumur. Musée des Arts et Métiers qui a accueilli le Centre International Jules Verne lors de la Nuit Européenne des Musées 2013, samedi 18 mai. François Mathias nous présente son interprétation de l'importance de Jules Verne dans le cadre des collections du Musée des Arts et Métiers, suivi d'une de ces trois animations qui se sont déroulées au sein du Musée des Arts et Métiers dans un hall très sonore lors de la Nuit Européenne des Musées. Pourquoi Jules Verne a-t-il sa place au Musée des Arts et Métiers ?
J'ai envie de répondre, c'est pratiquement son musée quand on regarde les collections. Déjà, le fond des collections s'est constitué beaucoup après les expositions universelles, à partir de 1855, notamment pour la France. Et on est dans le monde vernien complètement. On est dans tout ce contexte technique qui a nourri son œuvre pendant tout le 19e siècle. Donc on est vraiment dans un contexte des grandes découvertes techniques des années 1850 à aujourd'hui. Donc on est dans le musée de Jules Verne quelque part. Je veux pas dire ça parce que je m'adresse au Centre International Jules Verne à Amiens, mais c'est vrai, quelque part, c'est Jules Verne, il a plus que sa place dans ce musée.
L'homme de lettres aussi a sa place dans le musée en tant qu'homme de lettres. Est-ce compatible de se retrouver comme un commentateur efficace pour présenter la technique à tous les publics?
Je pense que Jules Verne, il est notre meilleur médiateur. Concernant les collections du 19e siècle, on peut pas faire plus accessible et plus agréable pour un public très large, hein, de 7 à 77 ans qui connaît pas l'histoire des techniques au 19e siècle. Il faut relire Jules Verne parce qu'il est notre meilleur médiateur pour les collections du 19e. On peut pas dire autre chose, à mon avis.
Ce qui nous reste à faire, c'est de faire comme Jules Verne, de venir au Musée des Arts et Métiers. En tout cas, on peut le supposer, pour venir s'inspirer.
Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même, même si la volonté du musée ces dernières années, c'est de redevenir un musée de l'innovation, on a quand même encore beaucoup, beaucoup de collections du 19e siècle. On essaye de faire des acquisitions, de redevenir ce musée de l'innovation. Et on n'est pas toujours dans l'innovation à 100%. Mais par contre, c'est vrai que pour le 19e siècle, on est une illustration parfaite du monde dans lequel a évolué Jules Verne et qui a, je le disais tout à l'heure, qui a nourri son œuvre. Jules Verne a habité pendant 10 ans à 2 pas du conservatoire. Donc c'est un lieu qu'il a forcément visité, revisité, qui était à l'époque le temple de la technique. Donc on peut pas imaginer que Jules Verne soit pas venu ici lorsqu'il habitait boulevard Bonne Nouvelle ou rue Saint-Martin.
Eh bien merci.
Merci à vous.
Est-ce que vous savez où nous sommes déjà? Alors qui n'est jamais venu au musée? Dans ce musée, je veux dire, pas au musée en général, mais... Dans ce musée, d'accord, ça fait beaucoup. On voit les gens qui aiment la gratuité, mais vous avez parfaitement raison. Tout est tellement cher de nos jours que je ne vous en voudrais surtout pas. Non, c'est une bonne occasion de découvrir le musée. Alors, simplement un petit point, 2 minutes. Vous êtes dans une ancienne abbaye. Je ne sais pas si vous avez remarqué en arrivant, il y a une église. Et ça deviendra, au moment de la Révolution, le Conservatoire National des Arts et Métiers, que beaucoup d'adultes connaissent pour y avoir subi des heures de cours nombreuses et difficiles. C'est un établissement d'enseignement supérieur qui a été rénové complètement, en fait, ce musée en particulier, dans les années 1990. En fait, pendant près de 200 ans, il y a eu une accumulation d'objets techniques dans le bâtiment, à tel point que vers 1990, on recensait à peu près 80 000 objets et machines dans le lieu. Donc on a fait une grande rénovation, on a déménagé l'ensemble de la collection dans des réserves en région parisienne. Le déménagement a duré 2 ans, pour vous donner une idée. Et on a réinstallé dans les salles seulement environ 4000 objets, à peu près, 4500. Tout est réparti, si vous êtes promené dans le musée, par grande thématique, hein, vous avez vu, instruments scientifiques, matériaux, et à chaque fois on avance dans l'ordre du temps. D'accord? Et là je vais commencer à parler de Jules Verne, parce que sinon je vous raconte mes vacances. Alors on va parler de ce célèbre auteur. Alors j'ai une question toute bête à vous poser, mais est-ce que tout le monde a lu ou a vu des adaptations, par exemple cinématographiques, de l'œuvre de Jules Verne? Tout le monde? Oui? Non, pas tous? Alors, bon, Jules Verne, c'est quand même un des grands auteurs, je dirais, pour la jeunesse, mais en réalité, il est beaucoup plus que ça, du 19e siècle. Il est né à Nantes en 1828, dans une famille assez bourgeoise. Hein, son père était dans le domaine notarial. D'ailleurs, il souhaite que son fils, comme beaucoup de papas, prenne la même voie. Et Jules Verne part faire des études à Paris et là il tombe amoureux du théâtre en particulier. Et au départ il se destine à être un auteur de vaudeville. Alors il faut savoir quand même une chose importante, pendant près de 10 ans, Jules Verne a vécu à 2 pas du Conservatoire National des Arts et Métiers. Il a une adresse boulevard Bonne Nouvelle Et il a une adresse rue Saint-Martin, là, qui passe juste devant le conservatoire. Donc on ne peut pas, nous ici, imaginer que Jules Verne ne soit pas venu dans ce temple de la technique qui était le musée au 19e siècle, avec vers 1860 cette grande galerie des machines en mouvement qui animait l'église à l'époque, où les gens venaient le dimanche en redingote ou pour les dames en crénoline, admirer des machines hydrauliques et des machines à vapeur. Hein, donc on peut être quasiment sûr que Jules Verne est venu au conservatoire. Alors, il fait une rencontre très importante lorsqu'il est à Paris, un jeune auteur, agent de change aussi, hein, il a des métiers alimentaires qu'il n'aime pas trop d'ailleurs, hein, on le sait par certains romans. Et il va faire une rencontre très importante, il rencontre un éditeur qui est un des grands éditeurs du 19e siècle, c'est Pierre-Jules Hetzel, qui édite entre autres Hugo et Balzac, pour situer. Hein, donc c'est quand même un des gros éditeurs de... Non, c'est tout a cappella ce soir. Désolé. Là, on a présenté, en fait, par rapport au travail de Jules Verne, plusieurs maquettes, dont trois viennent en particulier du Centre international Jules Verne d'Amiens. Je vous l'indique parce que c'est quand même, ce sont des maquettes très importantes, hein, pour les présentations ce soir. Donc, c'est un centre qui s'occupe de toute l'activité autour de Jules Verne et qui a un fonds très important en termes de bibliophilie pour les passionnés et qui collecte pas mal d'articles. Il y a un bulletin de société qui est paru, enfin, il y a pas mal de choses. Pour les passionnés de Jules Verne, c'est vraiment le centre à connaître. Hein. On a une des maquettes qui a été prêtée également par Didier Graffet, l'artiste qui a réalisé les tableaux que vous avez dans l'église. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller dans l'église tout à l'heure, hein, dans votre périple. On a des tableaux qui sont fortement inspirés par l'univers de Jules Verne. Hein, voilà. Alors, moi, ce que je proposais ce soir, c'était d'évoquer les machines extraordinaires de Jules Verne. Et évidemment, on va commencer par une des plus célèbres. Pardon, les gens qui ont besoin de la place. Alors là, je suis parti distinguer, on a évidemment une des machines les plus célèbres de l'univers de Jules Verne, c'est le Nautilus, qui est évidemment le sous-marin modèle de son roman 20 000 lieues sous les mers, qui est commandé par le fameux capitaine Nemo. Nemo qui en latin signifie personne d'ailleurs. C'est vraiment, il y a toujours des petits jeux de mots parfois dans les noms des personnages. J'ai une question toute bête à vous poser. Est-ce qu'à votre avis, en 1869, quand paraît 20 000 lieues sous les mers, est-ce qu'on connaît le sous-marin?
Oui. Le scaphandre?
Réponse A, oui. Réponse B, non.
Oui, oui.
Oui.
Alors, on va faire plus simple. Qui pense que oui?
On lève le vent?
Levez la main. Et dites je
on va se faire ridiculiser.
Qui pense que oui? Vous avez raison, bravo.
Ouais.
Voilà, exactement, une culture technique impressionnante. Effectivement, Jules Verne, en fait, alors, c'est là où on va commencer à découvrir un peu sa méthode de travail. La mission que lui avait confiée Pierre-Jules Hetzel en 1864, qui est inscrite d'ailleurs dans la préface du voyage et des aventures du capitaine à terrasse, c'est résumer toutes les connaissances géographiques, physiques, géologiques, techniques de son époque. C'est sa mission. En fait, Dumas avait, en quelque sorte, accrocher ses romans au clou de l'histoire, le clou de Jules Verne, ce sera les sciences et techniques. Voilà. Donc lui, c'est vraiment son fond de commerce. Et il a une méthode de travail extrêmement rigoureuse, en fait, Jules Verne. Il se documente énormément. Il est abonné aux grandes revues de vulgarisation de son époque, comme La Nature, par exemple. Et il compulse régulièrement des ouvrages spécialisés. Il va en bibliothèque, il consulte les journaux sur les articles des nouveautés du moment. Alors, il était réputé, d'ailleurs, à Amiens, pour être l'homme qui s'assoit sur les piles de journaux. Hein. Quand vous arrivez à la bibliothèque d'Amiens, vous voulez consulter des journaux ou des revues, certaines étaient sous les fesses de Jules Verne, hein, parce qu'il ne voulait pas qu'on y touche pendant sa journée de recherche. Hein. Donc voilà, il prend des notes très précises sur les nouveautés du moment, et ça nourrit en fait ses romans et son imagination. C'est vraiment la base de son travail. Et effectivement, le sous-marin, on le connaît au 19e siècle. Vous avez cité monsieur avec une culture générale absolument abyssale. Hein, on parle du Nautilus abyssal. Il y a cité effectivement... Vous touchez le fond, voilà.
Qu'est-ce qu'il a
dit? Bon, arrêtez, c'est la fin de soirée, vous allez me faire rire, je ne vais pas y arriver. Il a cité évidemment Samuel Fulton, qui est un des premiers expérimentateurs de l'idée du sous-marin. C'est un Américain installé en France, et il va fabriquer un sous-marin de 6 mètres de long qui est essayé, qui s'appellera le Nautilus. Vous voyez qu'il y a quand même des liens très forts. Quelques années plus tard, au 19e siècle, il y a d'autres recherches, hein, qui sont réalisées. Par exemple, un professeur qui a eu Jules Verne dans sa jeunesse va émigrer aux États-Unis et va travailler pour l'US Navy sur le premier sous-marin de l'armée américaine, de la marine d'ailleurs, qui s'appelle l'alligator. Et en fait, le Nautilus reprend beaucoup de caractéristiques de l'alligator américain, notamment les cloisons étanches, le fait d'avoir un éperon hein, pour faire couler, par exemple, un navire adverse, etc. Donc, il reprend beaucoup de caractéristiques de l'alligator américain. Et Jules Verne s'inspire aussi d'un sous-marin qui avait été conçu en 1859 en France, qui s'appelait le Plongeur, qui a été essayé près du Havre, dans la Seine. L'ingénieur, d'ailleurs, est originaire du Havre. Il s'appelle Jean-François Conseil. Alors, pour les lecteurs de Jules Verne, Conseil, ça devrait vous dire quelque chose. C'est le domestique du professeur Aronnax, hein, qui est capturé par le capitaine Nemo. Hein, il est plutôt hôte malgré lui et qui va vivre les aventures du Nautilus avec le capitaine Nemo. Alors, donc on voit qu'il s'inspire vraiment de ce qu'il dit. Alors, ce qui est intéressant quand même dans l'idée du sous-marin de Jules Verne, c'est au niveau vraiment à la fois des dimensions et des performances. Le Nautilus mesure 70 mètres de long. Vous prenez les premiers sous-marins nucléaires, oui, pas dans la vitrine. Vous prenez les premiers sous-marins nucléaires, le Nautilus américain, en l'honneur de Jules Verne en 1954, il s'appelle le Nautilus et mesure à peu près justement 70 mètres de long. Donc on retrouve les formats des sous-marins nucléaires d'attaque. Dans les performances, Jules Verne va avoir là beaucoup d'imagination. Le Nautilus est capable de descendre jusqu'à 15 000 mètres de profondeur. Un sous-marin d'attaque moderne descend en moyenne à 600 mètres, à 450 mètres de fond, et ceux qui ont des coques en titane atteignent 6 à 700 mètres. Donc là, on voit qu'il est quand même, pour descendre déjà à 10 000 mètres, comme par exemple Picard dans les années 60, il faut un bathysphère de forme sphérique en acier pour résister aux très fortes pressions, et lui, il a atteint un peu plus de 10 000 mètres, hein, pratiquement 11 000. Voilà, donc c'est quand même... Mais on voit que Jules Verne quand même va nourrir l'imagination de tous les constructeurs dans les années qui suivent. Alors ce qui est intéressant, par contre, c'est l'énergie choisie par Jules Verne. En 1869, souvenez-vous cette fameuse phrase de Nemo, « Mon électricité, monsieur Aronnax, n'est pas celle de tout le monde. » Il choisit l'électricité comme énergie de fonctionnement, ce qui est tout à fait bien vu, puisque 20 ans plus tard, le Gymnote, le premier sous-marin vraiment moderne français en 1888, sera équipé d'un moteur électrique. Donc on voit vraiment les idées très novatrices dans ce domaine-là. Alors il y a un autre domaine aussi qui est assez rigolo. Dans l'œuvre de Jules Verne, vous voyez aussi le bourgeois bien établi qu'est Jules Verne au quotidien, puisque quand il décrit le Nautilus, le capitaine Nemo dispose d'une chambre à coucher, d'une bibliothèque, d'un musée de l'océan. Le tout fait à peu près en surface dans le bâtiment 150 mètres carrés. Les 20 membres d'équipage ont 20 mètres carrés. C'est la chambre de bonne. Voilà. Donc c'est un peu rigolo, on retrouve quand même l'esprit du bourgeois voilà, du 19e siècle. Et ce qui est intéressant aussi dans le roman 20 milieux sous les mers, c'est le fait qu'il ait imaginé des moyens d'explorer aussi les fonds marins. Est-ce qu'on connaît le scaphandre ? Une question un peu bête comme ça, mais à votre avis ?
Oui. Oui, oui.
Sécurité. Alors oui, on connaît le scaphandre lourd, hein, on connaît les cloches à plongeurs, tout ça est déjà largement étudié au début du 19e siècle. Mais par contre, il y a une vraie nouveauté importante dans les années 1860, c'est en fait les premiers systèmes de plongée légers qui sont mis au point par deux personnages, Rouquayrol et Denayrouze en 1864, qui préfigurent vraiment le scaphandre léger amélioré à la fin de la Seconde Guerre mondiale par un certain commandant Cousteau. Donc là, on a vraiment des choses très très modernes. Alors par contre, c'est un peu la même idée que les profondeurs pour les atteindre par les sous-marins. Là, le système Rouquayrol de Denayrouze, dans les revues de l'époque, on lit que le système permet une autonomie respiratoire d'à peu près une demi-heure à une profondeur de 10 mètres. L'appareil utilisé par le capitaine Nemo et son équipage, on descend à 100 mètres de profondeur et on a 10 heures d'autonomie. Vous voyez un peu la méthodologie, hein. On extrapole, on va un peu plus loin que la réalité. Voilà. Je vais en profiter pour passer dans un autre domaine. On va quitter les hauts fonds marins. Ah si, il y a quand même une anecdote qu'il faut raconter. Jules Verne fait toujours l'éducation de la géographie dans ses romans. Hein. Il parle beaucoup de géographie. Et il y a un moment très rigolo dans 20 milieux sous les mers. C'est quand il explique que le Nautilus va passer sous la calotte polaire au pôle sud.
Impossible.
On a un gros problème. C'est que c'est pas possible. C'est l'Antarctique, c'est un continent. Mais on le découvrira 20 ans plus tard. Voilà, donc il fait l'état des connaissances géographiques avec évidemment les erreurs des connaissances de son temps. Alors, on va quitter les hauts fonds marins de 1869 pardon, et de 20 milieux sous les mers. On va parler là d'un autre domaine, le domaine aérien, qui fascine vraiment les contemporains. C'est le domaine aérien, bien sûr. Hein. C'est la grande conquête du 19e siècle. C'est une aventure très importante qui commence en 1783 avec le travail des frères Montgolfier, ces deux papetiers d'Annonay qui vont réussir à élever l'homme dans les airs. Et au 19e siècle, il y a un très important débat dans la presse, dans le monde scientifique, dans le monde technique, pour savoir de qui finalement, du plus léger clair, les ballons à hydrogène, à air chaud, ou les dirigeables qui apparaissent à l'époque de Jules Verne. Hein. 1852, Henri Giffard, qui est abondamment cité par Jules Verne, construit le premier dirigeable moderne qui fait un vol de 7 km en circuit fermé en 1852. Hein, Giffard, il est vraiment, on le voit cité clairement dans l'œuvre de Jules Verne. Donc c'est un débat très important. Et Jules Verne, il se trouve que lui, il a des amis qui sont plutôt portés à penser dans ces années 1860 que l'avenir, c'est le plus lourd que l'air. Et notamment, un de ses grands amis s'appelle Nadar. Son vrai nom, c'est Félix Tournachon. Nadar, je ne sais pas si vous le situez, c'est le grand photographe hein, du 19e siècle. Le seul qui refusera de faire une photographie officielle de Napoléon III, ce qui le rend fou d'ailleurs, hein, l'homme à l'habit rouge. Nadar est un personnage assez haut en couleur. Et Nadar prévoit en 1863, quand il fonde la Société pour la promotion des moyens aériens les plus lourds que l'air, il prévoit en 1863 que c'est l'hélice, la sainte hélice, qui nous emmènera dans les airs comme la vrille rentre dans le bois. Je cite littéralement, hein, c'est vraiment, il est persuadé que l'hélice qui est appliquée à la navigation maritime depuis 1864 est l'avenir de l'aéronautique. Et Jules Verne est vraiment dans ce courant, hein, complètement. Et quand il écrit un roman un peu plus tardif, qui est moins connu, qui s'appelle Robur le Conquérant, qui paraît en 1886, le héros Robur, qui est un aventurier, illustre parfaitement ce débat entre les plus légers et les plus lourds que l'air. Hein, les deux personnages principaux, Uncle Prudent, alors Uncle Prudent, c'est Oncle Prudent, c'est l'oncle de Jules Verne. Hein, il fait des petits clins d'œil comme ça, toujours à des gens qu'il a connus ou aimés. Phil Evans, son capturant, alors eux, ils fabriquent un dirigeable, hein, le Go Ahead, en avant, hein, littéralement en anglais. Et ils sont capturés par Robur, qui veut leur prouver avec sa machine volante dotée de 74 hélices et une hélice propulsive, que le plus lourd que l'air aura raison. Donc on est vraiment dans ce débat contemporain du plus lourd que l'air. Alors ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on ne détaille pas vraiment la motorisation, parce que justement c'est le gros problème dans ces années 1880. Les partisans du plus lourd que l'air sont persuadés qu'ils ont raison, mais on n'a pas encore trouvé la solution technique, c'est-à-dire un moteur suffisamment léger et puissant pour pouvoir faire s'élever une machine dans les airs. Certains ont essayé. L'hélicoptère, c'est un nom qui est donné à cette machine à voilure tournante par Ponton d'Amécourt en 1860, qui fabrique une maquette nue d'un petit moteur à vapeur avec deux hélices contrarotatives. Il appelle cette machine l'hélicoptère. Il est cité également par Jules Verne. Hein, donc on a vraiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces années 1880, on ne connaît pas la solution technique, mais on est persuadé que l'hélicoptère sera le premier véhicule aérien à s'élever dans les airs. Et en fait, on se trompe. Parce qu'évidemment, c'est l'avion hein, qui réussira le premier à s'élever concrètement dans les airs. L'hélicoptère, on a quelques modèles dans les collections, là. Dufault 1905, Breguet 1908. Il faut attendre 1936 pour voir le premier hélicoptère opérationnel, bien après les premiers avions. Alors, par rapport à l'aéronautique, là, on a évoqué l'hélicoptère et la Sainte-Hélice de Nadar. Alors, Jules Verne, il adhère à cette société de la promotion des moyens aériens les plus lourds que l'air. Il est même censeur, c'est-à-dire il gère l'argent de la société. Nadar, lui, fait des vols en ballon avec le géant pour financer par souscription la société. D'ailleurs, ça le ruine, hein, plus ou moins. Il arrête à un moment donné parce qu'il perd trop d'argent. Et parmi les adhérents de cette société, il y a également un certain Clément Ader. Il est à côté, Clément Ader. Il a son avion. Alors, en parlant d'avion, justement, c'est le roman qui fait suite, finalement, à Robur le Conquérant. On passe de 1886 à 1904. Je vais passer derrière le meuble. Et là, on va peut-être remettre, du coup, la vitrine. Alors là, vous avez une maquette, en fait, de l'autre véhicule imaginé par Jules Verne. On est à la toute fin de sa vie. Hein, il meurt en 1905. C'est une maquette de l'épouvante. Donc là, on retrouve le héros principal de Robur le Conquérant. Robur, qui est devenu un tyran incroyable, qui veut dominer le monde grâce à l'avion. Il a des bouffées d'absolutisme terribles. Hein, et il va utiliser un appareil qui s'inspire beaucoup de plusieurs choses. En fait, l'épouvante de Robur, c'est à la fois, alors accrochez-vous bien, une automobile, un sous-marin et un avion. Et il menace les grandes nations du monde en disant, de toute façon, vous ne pourrez rien faire contre moi. Hein, je vais asservir le monde si vous n'obéissez pas à mes directives. Hein. Alors, le contexte de l'épouvante, il est très particulier puisque on est quelques mois après le premier vol des Far Right aux États-Unis, avec cette fois-ci un moteur à explosion, hein, bien sûr, sur un avion. Et quelques années plus tôt, en 1901, avec un dirigeable équipé également d'un moteur à explosion, un certain Santos Dumont fera un vol en circuit fermé de plusieurs kilomètres. Donc là, avec Jules Verne, on s'aperçoit qu'on est à un virage très important dans l'histoire de l'aéronautique. On perçoit que l'avion va être la machine qui va réussir finalement à domestiquer les airs. Hein. L'Icarie, comme dit Robur. Hein. Voilà, donc c'est un moment important. Alors, en fait, dans l'épouvante, on sait aujourd'hui que Jules Verne, c'est principalement, dans Maître du Monde, pardon, c'est le titre du roman, pour l'épouvante, Jules Verne s'est profondément inspiré d'un appareil qui a été conçu par un monsieur qui s'appelait Alphonse Penaud. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a été complètement oublié, le pauvre. Alors, c'est le fils d'un contre-amiral qui a eu une maladie de la hanche quand il était jeune. Et il était infirme, en fait. Hein. Il avait des béquilles. Alors, c'est une histoire un peu triste. En fait, il va se passionner, il devient ingénieur. Et il se passionne pour la problématique du vol des plus lourds que l'air. Non seulement, en 1875, il développe une théorie du vol qui est une des plus modernes de son époque. Il reçoit même le prix de l'Académie des sciences. Hein, il évoque la résistance à l'air, la résistance des matériaux, les problèmes de portance, hein, tous les problèmes liés au vol motorisé et la légèreté du moteur. Mais là, il ne donne pas de solution. En 1875, sont évoqués. Il reçoit vraiment le prix de l'Académie des sciences pour son travail. Et l'année suivante, il dépose avec son ami Paul Gauchot un brevet pour un appareil qui est un hydravion, en fait. Donc, il décrit toutes les commandes modernes. Donc, sur ce brevet, vous avez les premières commandes centralisées pour un avion. Les gouvernes de profondeur, tout est là. Hein. Tout ce qui fera les futurs avions est déjà dans le brevet de Penaud. Et malheureusement, alors à l'époque, il n'a pas d'argent. Il cherche l'aide, justement, par exemple, d'Henri Giffard, que j'évoquais tout à l'heure, hein, le père du dirigeable, qui, lui, est vraiment persuadé que le plus léger de l'air triomphera, et il n'aide pas Penaud. Alors Penaud est désespéré, il devait être un petit peu dépressif, il n'a pas tout à fait 30 ans. Il envoie dans un petit cercueil les documents qui ont trait à son brevet, et il se suicide en rentrant chez lui. Donc c'est quand même assez dramatique, mais en fait, l'épouvante s'est vraiment inspirée énormément du brevet d'Alphonse Penaud. D'accord ? Donc c'est quelque part de la part de Jules Verne, c'est un bel hommage aussi à ce jeune homme qui a posé vraiment toutes les grandes théories du vol avant l'heure, quelque part. Voilà. Je vous propose de ranger la maquette. Je voulais terminer pour la partie 1886-1904, hein, les romans un peu tardifs de Jules Verne, qu'on n'a pas forcément beaucoup lu, les premiers sont beaucoup plus connus. C'est une période très sombre hein, dans les romans de Jules Verne. Il y a également un humour... j'allais démonter la deuxième aide, c'est pas une bonne idée.
Non,
il y a également un humour omniprésent. Je voulais simplement terminer pour cette partie 1886-1904. On est dans une époque où les romans de Jules Verne, à partir des années 1870 avec la défaite de 70, et puis surtout dans la fin du siècle, l'invention de la dynamite par Alfred Nobel, l'invention du fusil à répétition, font penser aux contemporains et à Jules Verne aussi, que finalement on n'est plus dans l'émerveillement de la science. Hein. On s'aperçoit que la science, la technique, peuvent générer aussi des choses assez terribles. Donc il y a un certain pessimisme parfois dans les derniers romans de Jules Verne concernant les nouveautés. Il est parfois beaucoup moins enthousiaste hein, que dans les premiers romans. Alors, on va terminer par l'espace, la grande frontière quand même au 19e siècle. Là, vous allez voir par rapport au véhicule qu'on a évoqué à l'instant, on va aller voir la maquette qui est là-bas. Là, on a une solution qui est typiquement du 19e siècle pour aller dans l'espace. Alors là, on a une très très belle maquette hein, qui montre en fait le fameux pas de tir du canon lunaire qu'a imaginé Jules Verne en 1865 pour envoyer trois hommes autour de la Lune. Hein, c'est le titre d'ailleurs de la suite hein, du roman de la Terre à la Lune. Alors pourquoi on choisit le canon ? Moi, c'est une question que j'ai envie de vous poser parce que finalement, c'est quand même étonnant pour nous aujourd'hui en 2013.
La grosse Bertha.
Alors effectivement, voilà. La raison elle est toute simple, vous l'avez dit, c'est que la fusée est complètement inconnue à l'époque de Jules Verne. Les premiers prototypes de fusée apparaissent vers 1895 à l'initiative d'un savant russe qui s'appelle Tsiolkovsky, hein, mais avant on ne connaît pas du tout l'idée de la fusée. Donc c'est vraiment, finalement, quand on voit le canon lunaire de Jules Verne, c'est une solution tout à fait logique. Quel est le véhicule le plus rapide à l'époque de Jules Verne en 1865 quand il écrit De la Terre à la Lune? C'est l'obus, finalement. Hein, c'est le boulet, l'obus. Hein, voilà. Donc c'est une solution tout à fait cohérente. Alors l'histoire, vous la connaissez certainement. Hein, Lippe Barbicane, le président du Gun Club, et son pire ennemi, le Major Nichols, vont se retrouver embarqués avec Michel Ardan. Ardan qui est l'anacyclique de Nadar. Anacyclique, vous inversez les lettres. Ardan, Nadar, hein, le grand copain de Jules Verne, vont se retrouver embarqués dans une aventure extraordinaire et on décide de les envoyer avec un canon géant d'un modèle qui existe d'ailleurs à l'époque. Hein, c'est un canon américain qui a été inventé en 1811, qui s'appelle la Columbiad. C'est un canon longue portée qui est utilisé beaucoup aux États-Unis pour les défenses côtières. C'est un canon assez performant. Donc là, il y a une version géante du canon, on le voit bien sur la maquette. Dans le roman, ça mesure à peu près 150 mètres de longueur et ça permet de propulser un obus lunaire autour de la Lune. Donc on ne parle pas à l'époque d'astronaute, on parlera plutôt d'obunaute. Voilà. Alors, pourquoi c'est irréalisable un obus lunaire? Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Parce qu'aujourd'hui, ça fait sourire beaucoup de scientifiques quand on lit Jules Verne, mais qu'est-ce qui rend cette idée complètement improbable, finalement, techniquement parlant? Voilà, au niveau de l'accélération, les passagers seraient quand même gentiment écrasés. Donc c'est une solution évidemment qui est cohérente à l'époque de Jules Verne, mais en fait dans les faits, voilà, hein, les passagers mourraient très rapidement, écrasés par l'impulsion, le choc, la chaleur à la traversée de l'atmosphère. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que les obunautes seraient vite ad patres. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de Jules Verne par rapport à ça, on voit qu'il s'inspire des techniques de l'époque. Il prend le canon le plus puissant du moment, hein, la Columbiad. Mais en même temps, il va s'inspirer beaucoup des dernières recherches de l'époque comme il le fait d'habitude. Il a un ami qui s'appelle Henri Sainte-Claire de Ville. Alors, c'est un monsieur qui a joué un rôle très important dans les premières recherches modernes sur l'aluminium. L'aluminium, c'est un matériau extrêmement récent à l'époque de Jules Verne. C'est un ingénieur des mines en 1830 qui s'appelle Pierre Berthier, qui va découvrir un minerai d'un rouge très particulier dans le sud de la France, près d'un petit village qui s'appelle à l'époque les Baux-de-Provence, qui porte toujours son nom, qui est magnifique si vous connaissez. Et donc, à partir de la bauxite, on va essayer de produire de l'aluminium. Et Sainte-Claire de Ville, qui est le premier à vraiment l'isoler en laboratoire, à essayer de trouver des solutions très modernes vers 1860, est persuadé, c'est l'ami de Jules Verne, que l'aluminium, c'est l'avenir. Et il n'a pas tort. Dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'aluminium, c'est un matériau extrêmement courant, bien sûr, aujourd'hui. Donc on voit aussi l'importance des dernières recherches dans ce domaine-là. Mais ce qui est le plus frappant dans ce roman, c'est quand même les similitudes extraordinaires avec la mission Apollo 11 de 1969. Déjà, on part des États-Unis. Fallait y penser à l'époque de Jules Verne. On part de Floride. On est à quelques centaines de kilomètres de Cap Canaveral dans le roman. L'obus lunaire va mettre, pour entrer en orbite autour de la Lune, exactement dans le roman, 97 heures et une poussière de minutes que j'ai oublié, pardonnez-moi. La mission Apollo 11 mettra 102 heures. Moi, ça me frappe, hein, personnellement. Alors, je vais vous dire le secret de Jules Verne. Il a un cousin qui fait des mathématiques. Il s'appelle Henri Garcet, il est professeur au lycée Henri IV à Paris. Et il va l'aider en fait à faire tous les calculs pour essayer d'imaginer comment on pourra envoyer un projectile autour de la Lune. Parce qu'à l'époque, on sait très bien qu'il faut se placer près de l'équateur, hein, pour avoir une chance d'échapper le plus facilement à l'attraction terrestre. On connaît à peu près la puissance de propulsion d'un objet pour le faire en sorte qu'il s'échappe justement à l'attraction. On connaît ce qu'on appelle la vitesse de libération. Donc tous ces calculs sont faits par son cousin Henri Garcet. Et c'est pour ça que finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est un réalisme terrifiant. Ça résonne quand même bien à nos oreilles quand on voit les chiffres que je viens de donner de la mission Apollo 11 de 69 et 100 ans plus tôt ce qu'écrit Jules Verne avec son cousin Henri Garcet, c'est quand même frappant. Et en plus à l'amérissage, on arrive dans le roman à 200 km de San Francisco, la capsule d'Apollo 11, elle arrive aux alentours d'Hawaï, on n'est pas très loin de San Francisco non plus. Donc même le point d'amérissage, il était très très bien. Bravo Henri Garcet et Jules Verne. Alors, il faut savoir, et là j'en viens à un point qui est important, Jules Verne va s'adjoindre, il n'est pas très bon en mathématiques, il a fait des études littéraires. La science, il aime bien, mais pas tant que ça, enfin, il aime bien ça, c'est la technique qui l'intéresse. Le vrai héros des romans de Jules Verne, c'est l'ingénieur. Le scientifique, en dehors du capitaine Nemo, qui est le scientifique universel, l'héritier des Lumières, hein, l'universaliste qui a des connaissances abyssales, elle est facile, dans beaucoup de domaines différents, ça va de la musique aux aciers. Le scientifique, il a une image assez sombre quand même chez Jules Verne. ils sont tous un peu psychotiques, ils sont un peu philanthropes, mais quand même leur travail aide l'humanité. Le grand héros quand même des romans de Jules Verne, c'est l'ingénieur. Mais là où je voulais en venir, c'est que justement, à la mort de son cousin, qui l'aidait beaucoup pour donner un fond véritable hein, à ses récits, Henri Garcet meurt en 1871 des suites du siège de Paris, hein, des privations. Il va embaucher quelques mois plus tard un jeune ingénieur qui sort de l'école polytechnique. Il prend un major de promotion, hein. Il ne prend pas non plus n'importe qui. Il s'appelle Albert Boutardeau et il va l'embaucher pendant plusieurs années. Alors Hetzelfis a du mal d'ailleurs à donner les 2500 francs de rémunération pour l'embauche de ce jeune ingénieur, ça l'embête un peu. Mais Jules Verne hein, arrive à argumenter, lui explique qu'il en a besoin. Effectivement, Boutardeau travaillera évidemment sur d'autres romans. Parce que vous savez qu'en 1889, il y a un roman qui s'appelle Sans dessus dessous, où on retrouve la fameuse équipe infernale d'Impey Barbicane et du Gun Club de Baltimore, qui essaie cette fois-ci de redresser l'axe de rotation de la Terre, pour abolir les saisons et exploiter les houillères du pôle Nord. Extraordinaire quand même. Voilà, je vous dis ça parce qu'il y a des romans qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont intéressants à lire, et où il y a pas mal d'humour d'ailleurs, parfois peut-être même plus que dans les premiers romans de Jules Verne. Il s'appelle Sans dessus dessous. Pour conclure, je voulais simplement dire, voilà, moi j'essaie de montrer un peu la technique Jules Verne, comment à partir de finalement des données de son époque, d'une très rigoureuse documentation, il arrive à parfaitement exploiter les nouveautés techniques et scientifiques du moment. Mais à côté de ça, à quel point dans certains domaines, et je pense notamment, on termine là-dessus, sur la mission Apollo 11 de 69, il y a un côté quelque part visionnaire, même s'il est aidé par un mathématicien, c'est quand même effarant de justesse. Hein, quand on voit les chiffres que j'ai évoqués, c'est quand même assez incroyable. Voilà, je vous remercie énormément de votre attention. Alors, merci. Je vous incite à lire Jules Verne, quel que soit votre âge, et surtout les romans tardifs, parce qu'on ne les connaît pas beaucoup, mais ils sont vraiment intéressants à découvrir ou à redécouvrir.